BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Dominique Rizet qui est bien là. Bonjour Dominique.
Bonjour Philippe.
Mais avec une toute petite voix, ouais. Dominique, aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un jour sans voix. C'est mais ça. Je vais essayer quand même. Merci d'avoir fait le sommaire à ma place.
Sans voix, mais pas sans talent. Dominique est là.
Oh, comme c'est beau.
Janvier 1978, janvier 2024. Deux époques, mais des crimes qui se ressemblent. Il y a quelques jours, le grand patron d'une société de crypto-monnaie, David Balan, était enlevé, mutilé, séquestré en échange d'une rançon. Une affaire qui rappelle l'enlèvement il y a 46 ans du baron Empain, un PDG d'industrie kidnappé, molesté, lui aussi mutilé, en attente d'une rançon. Les affaires se ressemblent, mais le crime organisé s'est modernisé. Comment traque-t-on aujourd'hui ces nouveaux malfaiteurs? Comment nos gendarmes sont-ils parvenus à sauver David Balan et son épouse, invitée exceptionnelle d'affaires suivantes, le général Hervé Pétri, commandant de l'unité cyber. Il répondra à nos questions dans un instant, mais d'abord, retour sur cet enlèvement rocambolesque avec Elisa Tran.
Leur calvaire a démarré un mardi matin au lever du soleil. Le 21 janvier, David Balan et sa compagne Amandine sont enlevés à leur domicile de Méreau. Lui est le cofondateur de Ledger, une société florissante dans le secteur de la crypto-monnaie. C'est à l'un de ses associés que les ravisseurs vont s'adresser à travers deux vidéos. La première montre le couple ligoté, la seconde, un doigt sectionné de David Balan. Le commando armé exige une rançon de 10 millions d'euros en monnaie électronique. Les gendarmes de Bourges sont aussitôt prévenus. Les premiers éléments de l'enquête les mènent devant cette maison de Vierzon.
Moi, j'ai entendu un grand boum. Et je suis sorti et c'est là que j'ai vu des messieurs avec des mitraillettes, des machins, l'hélicoptère de la gendarmerie qui était vachement bas.
Mais David Balan est en réalité retenu ligoté dans cette propriété isolée près de Châteauroux. Quand le GIGN donne l'assaut, cela fait près de 36 heures qu'il est pris en otage.
Une intervention que nous faisons avec un maximum d'effets de surprise qui nous permet d'arrêter en souplesse les ravisseurs. Nous arrivons à libérer M. Balan sain et sauf et arrêter ses ravisseurs.
Pas de trace en revanche de la femme de David Balan. La course contre la montre se poursuit. Le lendemain, les gendarmes vont mener un nouvel assaut sur ce parking d'Étampes. À l'arrière d'une camionnette, Amandine Balan est séquestrée par 6 hommes. Elle est libérée sans aucun coup de feu échangé. Au total, 10 personnes déjà connues des services de police ont été interpellées. L'enquête se poursuit afin de retrouver le ou les commanditaires.
Affaire incroyable, une enquête qui se poursuit. On va décrypter tout ça avec notre invité du jour, invité exceptionnel, général Hervé Pétri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commandant de l'unité nationale cyber, général depuis hier. Deux étoiles, on les voit. Félicitations à vous.
Merci.
Dominique n'aura pas ces deux étoiles, moi non plus, vous les avez.
Et
on est ravis de vous accueillir. Je faisais le parallèle avec l'affaire du baron Empain pour commencer, parce que dans ces deux affaires, alors le baron Empain, c'était il y a 46 ans, mais on a un grand patron d'industrie kidnappé, séquestré, mutilé les doigts de la même manière que David Balan. Est-ce que vous-même, quand vous êtes arrivé sur cette affaire Balan, vous avez pensé au baron Empain? Vous avez fait des parallèles?
Absolument, et d'autant plus que vous venez de le rappeler, on vient de fêter les 46 ans de l'enlèvement du baron Empain.
C'était à la même
à 23 janvier, jour
c'est
pour
ça.
Jour.
C'était le jour pour jour. Et donc, forcément, on fait le parallèle. Là où les choses divergent un petit peu, c'est que dans les années 70, on séquestrait des industriels.
Oui.
Ou des vedettes, et que là maintenant on séquestre des personnalités, soit enfin du monde du numérique ou des influenceurs, ce genre de choses. Donc changement d'époque, mais en fin de compte, c'est toujours à peu près la même chose finalement. Hein, on a affaire à des gens particulièrement féroces et prêts à tout pour obtenir de l'argent finalement.
Et la façon d'enquêter n'est plus la même.
Alors effectivement, là aussi vous avez raison, les moyens d'enquête ont considérablement évolué puisque nous sommes maintenant dans une époque où le numérique a envahi tout notre univers et ceux qui ont le plus réussi leur transformation numérique, c'est les criminels d'une certaine manière. Et la preuve en est avec justement cette affaire et cette rançon demandée en cryptoactifs.
Comment avez-vous travaillé sur cette affaire? Comment? Parce qu'il y a eu différents services qui ont été associés. On a eu le récit du GIGN, de cet assaut donné. Il y a tout le travail que vous avez fourni pour remonter à ces individus. Comment avez-vous travaillé?
Alors très simplement, c'est toujours un peu la même chose finalement avec la gendarmerie, parce que la gendarmerie a cette force, cette capacité à monter très rapidement en puissance et à mobiliser un grand volume de force. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc tout commence par, je dirais, la brigade de gendarmerie locale, qui ensuite rend compte à ses échelons hiérarchiques, et c'est le groupement, l'échelon départemental, qui va commencer à lancer les recherches physiques, je dirais, et récupérer l'ensemble de preuves pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur
un enlèvement. Très vite, vous avez le sentiment que c'est pas juste un enlèvement classique.
Bien évidemment, tout de suite, on comprend que c'est pas un enlèvement classique, et on fait appel à des renforts. D'abord, la section de recherche de Bourges, qui est en charge des investigations criminelles au sens large, et comme on voit qu'il y a effectivement des problématiques numériques, on fait appel à l'unité nationale cyber que je commande pour mener à bien les investigations numériques et au GIGN pour la phase négociation et intervention.
Et chez vous dans votre département, parce qu'il est important, GI on connaît, SR on connaît, on sait comment ils ont travaillé. Vous, juste vous, comment ça se passe au département cyber ?
Alors, l'unité nationale cyber, donc c'est l'unité phare de la gendarmerie en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Donc nous disposons de toute la panoplie d'outils et de moyens d'investigation pour œuvrer dans ce domaine. Comment ça se passe? Ben, très simplement, nous sommes co-saisis, donc nous sommes en appui de la section de recherche de Bourges, et on va tout de suite projeter et organiser et s'organiser en trois composantes. D'abord, on projette des effectifs sur le terrain au plus près de l'enquête pour appuyer les enquêteurs sur place pour traiter l'ensemble des preuves numériques. Qu'est-ce que ça veut dire traiter les preuves numériques? Ça veut dire tout simplement saisir, copier et exploiter les données qui sont dans les téléphones portables, les objets connectés, les ordinateurs, les serveurs. Donc, un appui terrain qui se révélera tout à fait important, bien
évidemment. De la victime.
De la victime dans un premier temps, et puis ensuite, des personnes interpellées au fur et à mesure qu'on va commencer à avancer dans cette enquête et à interpeller des auteurs.
C'est tout ce travail cyber qui permet de les localiser et d'aller les chercher et de les arrêter.
Alors, il y a bien évidemment ce travail, et puis il y a un peu de réussite également. Hein, toute affaire a besoin d'un peu de réussite. Au début, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Hein, ouais. Donc, c'est là où je rappelais le travail de nos gendarmes de terrain aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier, hein, parce qu'on essaye de rassembler toutes les preuves et de comprendre les faits. Et puis, on va investiguer dans l'appartement de la victime, ou plutôt dans sa maison, sur ses serveurs. On va essayer de trouver un certain nombre d'éléments. Et puis, à un moment donné, on va avoir un renseignement qui va nous provenir de la police nationale, qui elle-même avait été alertée par la police municipale de Bourges, qui avait détecté un individu au comportement suspect dans un véhicule en face de la gare. Il appelle la police vient l'interpeller. Et là, la police, une policière notamment, se rend compte que cet individu a des éléments en lien avec l'enlèvement de M. Ballan, qui, dans la région de Bourges, est très connu, parce que Ledger, c'est très connu dans la région. Et cette policière va appeler la gendarmerie, la SR de Bourges. Et donc là, il va y avoir un grand bond en avant, puisque, bien évidemment, les téléphones vont parler, on va travailler aussi sur le véhicule, on va exploiter toutes les données qui sont mises à notre disposition, et on va tout de suite avoir un certain nombre d'éléments nous permettant d'orienter les recherches.
On dit souvent ici avec Dominique, et on le redit, l'ADN est la reine des preuves, c'est ce qui permet de régler bon nombre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, ce sont plutôt les données numériques qui deviennent la preuve ultime, ou en tout cas l'outil ultime ?
ADN ou données, en fait, c'est la trace. Et la trace, voilà, elle peut être génétique comme elle peut être numérique. Donc, c'est tout le travail sur les traces et les données, quelles qu'elles soient. La gendarmerie, depuis maintenant, 6-7 ans, s'est mis en ordre de bataille pour être à la pointe dans ce domaine. La gendarmerie, c'est la première qui a fait une saisie en cryptoactif en 2014, hein, première fois en France. On a un vieux savoir-faire. Et on a agrégé nos forces il y a maintenant en 2019 de mémoire pour se doter d'une vraie capacité d'intervention en matière cyber.
Et vous travaillez derrière des ordinateurs essentiellement ?
Alors essentiellement, bien évidemment, hein, puisque oui, c'est le cœur du métier, mais avec beaucoup de projections terrain pour tout ce qui est perquisition, comme dans cette affaire, hein, finalement. On se projette, et donc moi j'ai des équipes dédiées d'intervention pour traiter la preuve numérique. Et puis, bien évidemment, à l'état-major à Pontoise, on traite d'autres types de données, que ce soit sur les cryptoactifs ou pour lutter contre les trafics sur le dark, par exemple. Enfin, voilà. Donc
toute la face cachée.
Toute la face cachée. On a toute une panoplie d'acteurs et d'enquêteurs sur tout le spectre.
Sur cette affaire, l'enquête n'est pas terminée, donc on va dire ce qu'on peut dire. Mais il y a eu ces personnes interpellées. Est-ce que, alors, le baron Montpain, on en parlait, on était sur des grands malfrats un peu classiques. Aujourd'hui, ceux qui ont été interpellés, quel profil ont-ils? Quel est le profil de ces criminels qui demandent de la crypto-monnaie, donc une forme de monnaie virtuelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais qui rapporte gros et qui représente de l'argent? Quel est le profil de ces individus qui commettent ce type d'actes?
Vous avez raison, c'est une bonne question, parce que voilà, ça en dit long de l'air du temps. En fait, les individus que nous avons interpellés, qui ont séquestré, ce sont des petites mains, des journaliers, des jobbers, comme on dit aujourd'hui, en mauvais français. C'est-à-dire qu'ils sont payés à la tâche, ils savent grosso modo à peu près ce qu'on leur demandait, mais pas plus finalement, et ils arrivent pour accomplir une tâche précise. Donc pour certains, ça va être l'enlèvement, pour l'autre, la séquestration, pour un autre, couper un doigt, pour un autre, vous voyez, apporter des vivres. Donc c'est très organisé. Ils sont recrutés comment? Là aussi, air du temps, sur les plateformes de messagerie. Et ils répondent à une annonce. Ou parfois, vous avez un individu chargé du recrutement qui dispose d'un vivier dans lequel il peut puiser, taper, pour aller justement
c'est
monter.
C'est l'agence d'intérim du petit criminel exécutant.
Exactement. Donc c'est comme ça que cela marche. Donc on le retrouve dans cette affaire de séquestration, comme on peut le retrouver également dans les affaires autour de la drogue, de règlement de compte, ce genre de choses.
Il y a une question évidemment, c'est qui se cache derrière, ouais. Qui les embauche? C'est ce que vous cherchez aujourd'hui évidemment. Alors vous n'allez pas nous dire où vous en êtes, parce que j'imagine que c'est le secret de l'enquête, mais quel profil peut être derrière?
Alors d'abord vous avez raison, nous la priorité d'abord dans cette affaire, vous l'avez tous compris, c'était la sauvegarde de la vie humaine, retrouver vivant et le plus vite possible les personnes qui ont été enlevées, séquestrées, Monsieur Ballan et son épouse, à qui je rends hommage pour leur courage, parce qu'il en faut, vu les circonstances dans lesquelles ils ont été enlevés et les traitements qu'ils ont subis. Donc ça, c'était notre priorité absolue et nous y sommes parvenus rapidement, et tant mieux. Voilà. Maintenant, on rentre dans une seconde phase d'enquête. Effectivement, c'est remonter sur les donneurs d'ordre, les organisateurs. Et donc là, c'est tout un long travail qui va prendre peut-être un peu de temps. Mais nous finirons par identifier ces gens, parce que, bien évidemment, il y a des pistes. Et qu'ils soient en France ou à l'étranger, voilà, ce n'est qu'une question de temps.
Mais c'est des très puissants. C'est quel type de profil? Pas forcément dans cette affaire, hein. Globalement, sûr. Le type de personne qui peut commanditer ça.
Ben, vous avez tout type de profil. Ça peut être aussi des gens qui gravitent dans les milieux des stupéfiants, qui ont une certaine habitude des trafics, de la violence. Voilà, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour faire un morphotype, mais voilà, ça pourrait être un peu ça aussi.
Ça va se reproduire?
Ça s'est déjà produit, ça s'est produit.
Le 3 janvier, on en a eu un déjà.
Exactement. Voilà. Il faut savoir qu'en 2024, j'ai regardé, on a eu à peu près une centaine d'affaires comme cela. Mais on était beaucoup dans les milieux de stupéfiants, de règlement de compte, encore une fois, de séquestration, enlèvement, entre dealers, entre trafiquants. Là, ces affaires, telles que celles-ci, qui ont une autre ampleur, ça commence un petit peu à s'accumuler. Maintenant, ça reste un épiphénomène. Donc il ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge et faire peur à tout le monde. Mais les cas s'enchaînent parce que ces personnes vivent dans un univers où ils sont fascinés, bien évidemment, par l'argent facile, le fantasme aussi des crypto-actifs, et ça leur pousse à agir.
Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup d'aimer sur le plateau.
Merci. Avec grand plaisir.
Félicitations
à
titre personnel.
Merci.
Et évidemment pour toutes les équipes qui ont travaillé sur cette affaire.